Parce que, comme vous l'entendez à mon accent, ma grand-mère était alsacienne. Je l'ai connue avec un accent, et c'était pas un chouluk, hein. Elle parlait alsacienne très prononcée, elle était née à Strasbourg, d'une famille juive très ancrée dans le judaïsme alsacien. Alors vous devinez un peu l'émotion que j'ai d'être conduit par le Seigneur à parler là devant vous sur cette terre d'Alsace. Et mes remerciements, ils passent au Seigneur, passent à travers des remerciements vis-à-vis de tous les responsables de l'église Josué, Luc et Emmanuela Bussière, qui ne sont pas là, mais toute l'équipe, je n'ai pas repéré qui était de l'équipe. Mais enfin, voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil. Alors ce matin, je vais partager un cheminement qui d'habitude est en trois étapes, mais comme Luc m'a dit, il faut y aller lentement, il faut poser les choses. Ce matin, si vous voulez, nous ne verrons que la première étape, tranquillement. Alors, je me présente, moi je suis le chrétien de base, je suis alors vraiment le simple paroissien, je n'ai pas de diplôme théologique ni rien, voilà, mais le Seigneur m'a conduit à aborder le sujet que je vais aborder. Alors sachez que dans le civil, j'étais instituteur en école maternelle, mais dans l'éducation nationale. On fait ce qu'on peut, hein. Voilà. J'étais instituteur en école maternelle, avec des enfants de 5 ans. Alors ça explique un peu ma façon de présenter les choses, vous m'excuserez, mais moi je suis resté comme ça. Et mon souci pédagogique, c'est toujours de poser d'abord les fondements, de partir des choses les plus simples. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas des enfants, mais quand même, le Seigneur me rend bien service lorsqu'il nous dit « Soyez comme des enfants ». Comme ça, je pourrais m'adresser à vous avec ma façon d'être, quoi. Voilà. Ça, c'était le préambule. Alors, peut-être je serai peut-être pas très long, peut-être moins long que Pierre-Daniel Martin, je devine. Mais, enfin, voilà. Alors, ça, c'était le préambule. Et je voudrais vraiment, pour commencer, dire à chacun de vous paix et bénédiction dans le nom de Jésus. Alors ce matin, je suis venu parler de quoi en fait? Elle me dit d'Israël, de la greffe. Eh bien non, je ne suis pas venu parler d'Israël. Alors rassurez-vous, je vais en parler. Mais je ne suis pas venu pour parler d'Israël, pour mettre tout le projecteur sur Israël. Je suis venu pour mettre en évidence, si besoin était, une vérité, une réalité qui me semble fondamentale, qui est d'une simplicité, j'allais dire, évangélique, mais à laquelle, des fois, on ne prête pas assez attention. Et ça, je vais vraiment insister lourdement là-dessus. Alors, vous pouvez prendre les marteaux et puis faire entrer les choses dans les cerveaux. Je voudrais dire ceci. C'est l'évangéliste Jean, dans sa première lettre, qui nous dit « Dieu est amour ». Ça, nous le savons. Voilà, Dieu est amour. Et là, Jean ne dit pas « Dieu manifeste de l'amour ou prodigue de l'amour ». Ça, c'est vrai. Il le fait, bien sûr. Mais le verset dit « Dieu est amour ». C'est dans sa nature. Or, nous tous ici, nous savons que l'amour, c'est un mouvement. Ça bouge, l'amour. Et on ne peut pas aimer en étant statique, en étant figé. Donc, si Dieu est amour, ça veut dire que en Dieu, c'est un peu parler ainsi, hein, parce que parler de Dieu, pour nous, les humains, c'est bon, ben, enfin, c'est le brouille comme on peut. Hein. Ça veut dire que en Dieu, il y a une circulation de l'amour. D'où à où? Eh bien, tout simplement, une libre circulation, une parfaite circulation de l'amour entre le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Et ça, cette notion, elle est très importante. Et parce que Dieu se présente dans sa nature profonde comme un Dieu de relation. En Dieu même, il y a relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, il y a ces réalités en Dieu. Voilà. Alors, une relation qui est forcément Je ne vais pas me laisser distraire par quoi que ce soit. Parce que... Assieds-toi, mon garçon. Assieds-toi. Sois le bienvenu. Non, mais je sais que des fois, j'ouvre une parenthèse, quand on dit des choses importantes, comme le Seigneur nous fait dire des choses importantes, nous avons des fois l'adversaire qui se sert de choses innocentes, bonnes, comme cet enfant très gentil qui rentre là, et ça distrait tout le monde au moment où on veut dire un truc important. Alors, je ne me laisse pas prendre au piège de ça. Hein. Voilà. Donc, je disais que Dieu est un Dieu de relation. Donc, de très bonnes relations, on pourrait dire un Dieu de communion. Hein? Prenez le mot communion, le fait qu'il y ait entre les uns et les autres une solidarité, une harmonie, etc. Notre Dieu est un Dieu de communion. Alors ça, nous pouvons prendre le marteau et nous le faire entrer dans notre tête. Alors, je vais le faire pour les plus jeunes, là. Nous allons dire ensemble, nous allons redire la phrase ensemble, notre Dieu est un Dieu de communion. Vous voulez bien? Ben, j'étais ainsi de maternelle. Hein. Notre Dieu est un Dieu de communion. C'est très important. Or, l'amour, ben, ça ne peut pas rester bloqué. Ça doit se déverser, ça doit se manifester. Et alors, que fait Dieu avec cet amour qui est l'essence de sa personne? Eh bien, Dieu projette son amour à l'extérieur de lui-même. Et que fait Dieu à ce moment-là? Il crée. Et là, j'espère que tout le monde connaît au moins le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui le connaissait, ça, ce verset, le premier verset? Oh, attendez, vous m'effrayez là. Bon, je suppose que toutes les mains devraient se lever. Alors, si vous ne le connaissez pas, je pense que ça, c'est un verset à savoir par cœur. C'est des passages obligés. Parce que nous sommes dans une société, dans un monde marqué de New Age, où la notion de Dieu créateur, ça va par en brioche. On perd la notion de Dieu créateur. Et ce premier verset de la Bible, on devrait le savoir, mais vraiment comme 2 plus 2, ça fait 4. Alors, c'est pas pour les plus âgés, c'est pour les plus jeunes, parce que les plus âgés, vous le savez par cœur, mais les plus jeunes ne le savent pas. Alors, on va dire ensemble, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ça, il nous faut le savoir par cœur, je m'excuse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on dit les cieux et la terre, les cieux, c'est bien sûr le cosmos, les étoiles, etc. Mais c'est aussi toutes les réalités qui sont de l'ordre du non visible, du non palpable. Donc, Dieu a créé des réalités visibles, pour nous, à l'œil nu, là, même à l'appareil scientifique, des réalités visibles et des réalités non visibles. Mais, comme il est un Dieu de communion, il a établi des passerelles, des connexions entre les deux domaines. Dieu est créateur des cieux et de la terre, notre verset nous dit de la terre et des cieux. Il y a la réciproque. Et alors, quand Dieu crée l'univers que l'on voit, eh bien, Dieu imprime dans tout l'univers un principe de communion. En bref, l'univers tient debout. Hein, ça a été à un moment donné le tohu-bohu, le chaos, et puis Dieu a organisé tout ça. L'univers tient debout. Et même dans la création, dans ce que nous voyons, on nous en parle, il y a un équilibre écologique. Dieu a donné cet équilibre-là à l'univers. Donc, une communion. Par exemple, un seul exemple parmi des milliards d'exemples, les abeilles sont utiles pour les fleurs, parce qu'elles vont propager le pollen beaucoup plus loin, et les fleurs vont se répandre, et les fleurs, bien sûr, sont utiles, à cause de leur pollen, aux abeilles. Ça, c'est un petit exemple parmi des milliers et des milliers. Et puis alors, une fois que Dieu crée l'univers, qui crée le cosmos, qui crée la planète, Dieu qui est extérieur à sa création, comme le peintre est extérieur à son œuvre. Est-ce qu'il y a les personnes qui ont fait ces magnifiques dessins-là, non? Il est pas... Bon, eh bien, vous voyez, quand on admire ces belles œuvres, eh bien, on sait très bien qu'on ne confond pas avec l'artiste. L'artiste, la voici... Et voilà, nous pouvons rendre hommage à l'artiste et nous pouvons admirer son œuvre. Elle est extérieure à son œuvre. Heureusement, notre sœur, elle n'est pas faite de papier Kraft. Voilà. Mais c'est pour dire que nous ne devons pas mélanger le Créateur et la création. Dieu est extérieur à la création. Mais comme cette création, il a créé par amour, Dieu a besoin d'un point d'ancrage de son amour au niveau de la création. Et quel est ce point d'ancrage? Est-ce que vous le connaissez? Qu'est-ce que c'est qui est le point d'ancrage entre le Dieu créateur et la création? Vous ne le connaissez pas? Mais c'est vous, madame, c'est vous, monsieur, c'est vous, c'est moi, c'est l'être humain, homme et femme, créé à l'image de Dieu. Nous sommes, nous, l'humanité, le point d'ancrage entre le Créateur et sa création. C'est dire l'importance de la personne humaine. Et Dieu a voulu par là établir une communion entre lui et l'humanité. Alors on va symboliser ça, on va dire que c'est une communion à la verticale. Et puis quand Dieu crée la personne humaine, il met dans la personne humaine ce principe de communion. Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Dans nous, il y a cette communion, il devrait y avoir cette communion entre l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Et lorsque Dieu crée l'être humain, il commence par le premier. Le premier, c'est qui c'est? Qui c'était? On connaît son nom? Adam. Et alors Adam, lui, avait aussi besoin d'une communion, d'une relation. Et à côté d'Adam, Dieu crée Ève. Et le premier cri de l'être humain, c'est un cri d'admiration devant la femme que Dieu a créée à côté de lui, devant Ève. Donc Dieu a suscité cette communion dans le couple. Bon. Et puis le couple, bien sûr, va avoir des enfants. Et la communion, de nouveau, ça continue. Communion, là, à travers le temps. Parce que les enfants vont être héritiers de leurs parents, au point de vue génétique, au point de vue spirituel, au point de vue culturel. Et il y aura une communion, selon Dieu. Le projet de Dieu, c'est qu'il y ait une communion de génération en génération. Donc, communion à la verticale, communion, j'allais dire, à l'horizontale, et puis une communion à travers le temps. Et puis, la famille n'est pas faite pour être en vase clos. Et tout à l'heure, lorsque nous sommes approchés pour partager le pain et le vin, vous voyez, c'était merveilleux parce que toutes les familles s'étaient reconstituées, mais toutes les familles étaient ensemble. Il y avait une communion entre les familles. Communion au sein de la famille, mais communion entre les familles. Ça, c'est très important. Et je crois que la manière de prendre la Sainte Cène, là, ici, c'est quelque chose de très fort, de cette communion voulue par le Seigneur. Donc, les familles entre elles, que forment-elles? Elles forment des clans. Communion dans le clan, communion entre les clans. Les clans, que forment-ils? Ils forment des tribus. Communion entre les tribus. Au sein des tribus, et les tribus forment une nation, et voilà plusieurs nations. Il faut bien comprendre que le désir de Dieu, c'est une communion, donc, entre lui et l'humanité à la verticale, mais aussi une communion, j'allais dire, à l'horizontale, dans toute la communauté humaine. Alors, la communion, ça implique quoi? Est-ce que mon épouse voudrait descendre de son perchoir et venir ici? Comme ça, c'est une occasion de vous présenter mon épouse. Voilà. Non, mais c'est pour illustrer la chose. Pour qu'il y ait communion, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Il faut qu'il y ait déjà un pluriel. Parce que moi, tant que j'étais là, sans mon épouse, dans un singulier, ben, je disais, oui, mon épouse et mon épouse. Elle est là. Alors, la communion, ça commence toujours avec un pluriel. Le pluriel, il commence toujours avec deux. Puis, voilà. Donc, la communion implique qu'il y ait un pluriel et qu'il y ait un respect de l'identité de chacun. Que toi, tu sois toi, que moi, je sois moi, et qu'entre nous deux, il y ait une relation, il y ait comme un cordon, ici le cordon de l'amour. Ce sont les conditions de base de la communion. Alors que ce soit dans le couple, mais dans n'importe quel domaine, voilà, pour qu'il y ait communion, vous avez compris, il faut qu'il y ait un pluriel, parce qu'avec un seul, on ne peut pas faire communion, mais qu'entre les réalités en présence, il y a une relation constructive, une relation positive. C'est ça la communion. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, ce n'était pas difficile. Voilà. Bon. Alors, l'homme et la femme dans le jardin d'Éden arrivent qui ? Le serpent, appelé dans la Bible le diable, Satan, l'accusateur des frères. Le diable, je crois qu'en grec, ça veut dire celui qui fait foirer les choses, et le perturbateur. Et le diable observe avant d'agir. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit cette communion établie, et le diable va tout faire pour casser ce principe de communion. Voilà, le diable vient rompre la communion. Ça, nous le savons, hein ? Bon, la communion non seulement entre l'homme et Dieu, mais aussi la communion, j'allais dire, à l'horizontale, entre les hommes. Alors, comment le diable va-t-il s'y prendre ? Et ça, c'est intéressant, parce que ce que je vais expliquer ici, ça se vérifie dans des quantités de domaines de la vie. Vous allez voir. Alors, est-ce que, Claudine, tu peux encore revenir ? Alors, deux tactiques. Le diable joue ou sur l'une ou sur l'autre ou sur les deux à la fois. Il combine avec les deux. Une tactique revient à faire du pluriel un singulier absolu. Réduire le pluriel à un. Alors, à ce moment-là, par exemple dans la vie de couple, quand la personnalité de l'un vient absorber la personnalité de l'autre, à moins que des fois dans le couple c'est l'inverse. Oui. Voilà. Bon, rassurez-vous, chez nous, mais ça arrive très fréquemment. C'est-à-dire que les deux sont réduits à un, au point de vue personnalité. Alors le cordon de l'amour, là, ici, il est réduit comme l'antenne du transistor. Vous savez, l'antenne ? On appuie, tac, 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 ça descend, et on la réduit à rien du tout. Hein ? C'est tellement réduit que la personnalité de l'un vient se fondre dans la personnalité de l'autre. On appelle ça la globalisation, l'absorption. Alors ça, où on trouve ça dans la vie courante ? Alors, dans les problèmes de couple, ça arrive fréquemment, ça. Hein ? Bon, quand, par exemple, une fille est tellement en symbiose avec sa mère que la personnalité de la fille est diluée dans la personnalité de la mère. Ça arrive, ça. On voit ça. Alors là, la maman, là, elle va faire, vous pensez bien, plus tard, une belle-mère catastrophique. Ben oui, parce que le conjoint ne saura pas s'il a épousé la fille ou la mère. Ben, on rit, mais c'est classique, ça, c'est le schéma, c'est des schémas classiques. Bon, ça va, tu tiens. Oui. Bon, ça arrive aussi dans les administrations. Dans notre pays de France, des fois, quand un ministère vient absorber un autre ministère, ça arrive. On m'avait dit il y a quelques mois de cela que le ministre, celui qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, s'était rendu compte que dans la zone occupée par les malfaiteurs, la police et la gendarmerie, ce sont deux corps différents, se gênaient. Parce que tous les deux étaient présents sur le terrain. Voilà. Alors, ils se gênaient. Donc, il y avait absorption de l'un par l'autre. C'est quand une entreprise absorbe, rachète une autre entreprise. C'est quand un pays vient colonialiser, mettre sa main sur un autre pays. Alors, des exemples comme ça, on pourrait les multiplier. Dans nos classes, alors moi, je parle un site. J'avais une ATSEM, une dame qui travaillait avec moi, et un jour, moi dans mon école, les gamins, ils nous appelaient maîtresse ou maître. Alors on me disait maître. Bon. Mais un jour, les enfants l'ont appelée maîtresse, cette dame. Et elle était très bien comme tsem, et moi je la respectais comme tsem, ça se passait bien. Mais quand j'ai entendu qu'il l'appelait maîtresse et qu'elle ne rectifiait pas, je me suis dit, elle se prend pour la maîtresse. Donc quelque part dans sa tête, elle me prend ma place. C'est ça, c'est la globalisation. Alors, la deuxième méthode, utilisée par le diable, c'est celle-ci. Il y a le cordon de l'amour, là, entre nous deux. Et bien sûr, vous avez vu qu'il y avait une distinction entre l'un et l'autre. Et moi, je dirais que le Seigneur ne suscite jamais des divisions. Ce n'est pas le Seigneur qui fait les divisions. Mais le Seigneur suscite des distinctions parce que qu'est-ce qu'il aime, le Seigneur ? Il aime les différences. Ben, moi, je vois vos visages, il n'y en a aucun les mêmes. Hein. Et puis, quand vous allez, vous ouvrez le dictionnaire à la page des oiseaux, vous voyez des quantités d'oiseaux, des quantités de poissons, etc. Le Seigneur, le Créateur, aime les différences. Mais il ne provoque pas des divisions. Et c'est le malin qui provoque les divisions. Quand la distinction est tellement exacerbée, qu'à un moment donné, chacun, dans la vie de couple par exemple, chacun vit sa vie tellement séparée de l'autre, qu'à un moment donné, le cordon de l'amour finit par casser tellement il est tendu. Voilà. Et le diable provoque la division. Elle sait que c'est fini. Voilà. Alors, où c'est qu'on trouve la division ? Mais dans les problèmes, dans les crises d'adolescence. Alors, s'il y a des adolescents ici en pleine crise d'adolescence, n'écoutez pas ce que je dis. Mais qu'est-ce que c'est que la crise d'adolescence ? C'est un moment qu'il faut y passer, bon, c'est comme ça, mais... La distinction entre l'enfant et les parents est tellement exacerbée que c'est la crise. Au pire des cas, ça peut être même la fugue. Voilà. Bon, c'est un passage un peu obligé. Ce qui est grave, c'est quand ça s'éternise. Mais voyez, une crise d'adolescence, c'est de l'ordre de la division. Quand, par exemple, dans l'administration, quand... ce que fait un ministère est totalement ignoré de ce que fait l'autre ministère. Quand dans la même administration, le bureau qui est ici ignore tout à fait ce qui se fait dans le bureau qui est là-bas, même si des fois il y a une simple cloison de l'épaisseur d'une brique. Ça, je ne sais pas en Alsace, mais chez nous, dans le Midi, c'est souvent. Hein. Dans les administrations, tel bureau ignore totalement ce que fait l'autre. Il y a un sectarisme, il y a un cloisonnement, c'est la division. C'est quand, entre deux pays, on a rompu les relations diplomatiques, on ne se parle plus. Voilà, ça c'est la tactique du diable. Et dans beaucoup de problèmes que vous rencontrez dans la vie, c'est ou l'un ou l'autre. Le diable joue sur les deux. Alors le diable, qu'est-ce qu'il a provoqué ? Il a incité l'homme à s'imaginer que l'homme allait prendre la place de Dieu, la globalisation, et eh bien, il y a eu rupture de relation entre l'homme et son créateur. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'une fois que les relations ont été rompues entre l'homme et le créateur, eh bien, la rupture a eu lieu aussi au plan horizontal. Entre Adam et Ève, ça n'a plus fonctionné tout à fait comme il faut. C'est ta faute, non, c'est la tienne, c'est le serpent. Enfin, vous voyez, la communion a été quand même bien malmenée. Et puis, on a vu cette rupture se faire au sein des familles, au sein des clans, au sein des nations. Et on en est arrivé à tous les conflits de voisinage, à toutes les crises de couple, et puis finalement dans les guerres d'une nation contre une autre nation. Voilà, ça c'est le principe c'est la division amenée par le diable. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu va se contenter de ce triste état de choses ? Mais non. Alors, si nous voyons dans nos Bibles que au début, pour nous c'est le début parce qu'on n'a pas la notion du temps qui est passé, on voit qu'après Noé, le projet de Dieu c'est de reconstituer une humanité nouvelle, de repartir avec les descendants de Noé. Et alors on voit que, selon la Bible, peu à peu se créent 70 nations dans le monde. Voilà, est-ce que je pense que ce nombre 70 est symbolique, il signifie quelque chose. Il faudrait les demander aux rabbins de nous expliquer. Enfin, voilà, il y a 70 nations après le déluge, après Noé. Et Dieu dit à ces nations de se disperser sur la surface de la terre. C'est-à-dire, chacun va partir d'un côté, d'un autre, développer sa propre culture, sa propre identité, et on va... Ben, je suppose les Italiens vont plutôt faire la pizza, les spaghettis, nous ici on va être plutôt la choucroute, etc. Voilà, chacun va développer son style, sa culture. Mais la Bible nous dit qu'à ce temps-là, les hommes parlaient une même langue. Alors il y avait peut-être des dialectes locaux, je ne sais pas. Toujours est-il que fut un temps où d'une nation à l'autre, on se comprenait. Mais semble-t-il, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'à un moment donné, c'est l'affaire de la tour de Babel, les hommes ont dit, construisons une tour qui touche le ciel, rassemblons-nous pour ça, pour une construction de cette ampleur, faisons-nous un nom. Mais un nom en opposition au nom de l'Éternel, Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc, là, Dieu se rend compte, enfin, semble-t-il, se rend compte que au sein de l'humanité, il y a une force qui aimante les hommes à se regrouper, mais pas dans un esprit de communion. Parce que dans la communion, toi, tu es toi, moi, je suis moi. Là, c'est faisons un seul nom, à fusionner, à globaliser, pour prendre, croit-il, la place de Dieu. Alors, on voit que dans l'affaire de la tour de Babel, eh bien, on retrouve ce principe qu'on voit actuellement de la mondialisation. C'est le totalitarisme. C'est la dictature. En fait, dans une dictature, il y a le dictateur qui pense et il impose à tous ses sujets de penser comme lui. Et même sans parler de dictature, nous voyons dans nos sociétés combien, mais vous devez le voir peut-être dans vos entreprises, dans vos lieux de travail, et je ne parle pas du collège Daniel, mais malheureusement dans le monde, dans bien des lieux, si quelqu'un a le malheur de montrer qu'il a un peu d'expérience dans son métier, qu'il commence à avoir de l'expérience, comme on dit, de la bouteille, et à faire des suggestions, à sortir la tête hors du moule, au mieux il se fait scalper, au pire il se fait décapiter. On n'aime pas tous ceux qui sortent un peu du moule. Et ça, des moules, il y en a, des moules psychologiques, spirituels, dans tous les milieux. Je veux dire, même dans nos églises, si on ne fait pas attention, au bout d'un certain temps, il se fait une espèce de moule. Et gare à celui qui n'est pas tout à fait dans le moule. Voilà, ça c'est le totalitarisme, c'est la globalisation. Alors avec la tour de Babel, c'est exacerbé. Alors que va faire Dieu? Eh bien, il va faire un peu comme... Je prends l'image des mamans qui sont parmi nous. Je ne sais pas si vous avez déjà donné de la pâte à modeler à vos enfants. Les maîtresses de maternelle, au petit tout, on lui donne une boule de... il y a une boule de rouge, une boule de vert, une boule de bleu. L'enfant joue, et puis le soir, on lui demande de tout ranger. Il ne range pas beaucoup, alors la maman arrive, et elle ramasse toutes les boules, les petites boules, et elle en fait une grosse boule. Alors, c'est les instincts de maternelle ici, ils doivent savoir de quelle couleur devient la boule, petit à petit. Quelqu'un l'a dit. Elle devient grise, uniformément grise, affreusement grise, cette boule. Et ça fait une grosse boule. Eh bien, j'allais dire que dans l'humanité, ce principe de totalitarisme, de globalisation, de mondialisation, fait que toute l'Amérique va manger de la choucroute. Non, excusez-moi, oui, amen, alléluia, amen. Oh, je me suis trompé. C'est-à-dire, toute l'Europe va manger McDo. Toute l'Europe va manger McDo, est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, que va faire Dieu, si je le compare à la maman, face à cette grosse boule de pâte à modeler, d'une grosse masse uniforme? c'est la globalisation. Dieu va mettre un caillou dans les rouages de la globalisation. Il va prendre un peu de la pâte de la grosse boule, il va en faire une autre boule ici, une boule distincte de la grosse boule. Il va dire, voilà, une boule de pâte à modeler distincte de l'autre. Et là, on est sorti du singulier absolu de la grosse boule, et maintenant, on revient à un pluriel. Ça va se jouer au niveau des nations. C'est-à-dire que Dieu va, pour rétablir son principe de communion entre lui et les hommes, et puis à l'horizontale, va s'appuyer sur un peuple. Il va se servir d'un peuple pour rétablir la communion. Alors, rétablir la communion, on appelle ça un plan de rédemption, un plan de salut. Et là, je vais poser une question, je ne sais pas à qui, à la sœur qui prend des notes. Je vais vous poser une question, mais n'ayez pas peur, dans ma question, il y aura un piège. Quel peuple Dieu choisit-il pour appuyer son plan de rédemption en faveur de l'humanité? Il m'a répondu spontanément. Donc la sœur m'a répondu, le peuple hébreu, elle aurait pu dire le peuple d'Israël, le peuple juif. Mais je vous avais dit qu'il y avait un piège. Voilà. Alors le piège, vous savez ce que c'était? Je lui ai posé la question, sur quel peuple Dieu choisit-il? Elle m'a répondu, le peuple hébreu. Le piège, il était, quel peuple Dieu choisit-il? Comment? Non, vous êtes tombé dans le piège, c'est tout. Écoutez bien. Quand Dieu a voulu appuyer son projet de rédemption sur un peuple, il était là, de haut, et il avait tous les peuples devant lui, peut-être, je ne sais pas, des Amérindiens, des Celtes, des Africains, des Chinois, des Esquimaux, je ne sais pas, des Étrusques. Et alors, il se serait dit, voyons quel est le plus beau, le plus fort, peut-être le plus spirituel. Alors, voyons voir, tiens, là-bas, il y a des Hébreux, là, il y a des enfants d'Israël, peut-être eux feront l'affaire. Eh bien non, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Ça, c'est une deuxième chose qu'il faut vraiment se rentrer dans la tête. C'est tout en nuance ce que je vais dire. Dieu n'a pas choisi un peuple parmi les peuples qui existaient devant lui sur la surface de la planète. Dieu n'a pas choisi un peuple. Dieu a choisi de se constituer, de se forger un peuple qui jusque-là n'existait pas. Alors c'est vrai que dans la parole, après il appelle « peuple choisi, vous êtes un peuple élu ». Mais au départ, qu'est-ce que fait Dieu? Alors là, la sœur avait raison, il appelle un couple, Abraham et Sarai, qui est devenu après Abraham et Sarah, et ce couple tiré de la patte humaine, de la même nature que vous et moi, et à partir de ce couple et de leurs descendants, Dieu se constitue ce peuple qui n'existait pas. Si je reprends l'image de la maman avec la pâte à modeler, il a pris un petit peu de pâte à modeler, là il en a fait une boule qui s'appelait le couple Abraham et Sarah, et à partir de là, Dieu s'est façonné ce peuple qu'on appelle le peuple hébreu, le peuple d'Israël, le peuple juif. Pourquoi c'est important cette nuance? Parce que quand souvent les gens entendent parler du peuple élu, ils ne l'entendent pas comme, je suppose, la majorité de vous l'entendez avec des oreilles, je ne fais pas la flatterie, mais je pense de bonnes oreilles, selon le Seigneur. Mais la plupart des gens, lorsqu'on leur dit Israël, le peuple élu, eh bien, ils réagissent un peu comme pour l'élection d'une reine de beauté, Miss Alsace. Alors, pour l'élection d'une reine de beauté sur un podium, on fait venir toutes les jolies filles, et puis on choisit celle qu'on pense être la plus belle. Mais alors, pendant qu'on la couronne, que font les autres? Elles repartent dans les coulisses et on devine bien qu'elles sont en larmes, elles pleurent de désespoir et de jalousie. Et quand on présente Israël, le peuple élu, de cette façon-là, les gens disent, mais ces Juifs, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Et ça crée des jalousies. Et ça ne devrait pas créer des jalousies. Parce qu'il faudrait comprendre que Dieu a évidemment créé ce peuple. C'est dans Isaïe chapitre 40 où il est dit, Dieu le créateur d'Israël, Dieu a créé ce peuple en faveur de tous les autres peuples de notre terre. En faveur. L'élection d'Israël, c'est-à-dire l'appel de Dieu pour ce peuple, n'est pas fait pour faire un peuple de chouchou. L'histoire montre bien que non, hein. Mais pour que ce peuple soit le porteur de la bénédiction en faveur des autres peuples. Alors, voilà ce peuple d'Israël qui a une vocation extraordinaire. Moi, je vous parle en images, j'ai parlé de la pâte à modeler, j'ai parlé d'autres trucs. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre... Bravo, qui a dit le chapitre 11 ? Bravo, très bonne réponse. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 11, compare Israël, il prend une image un peu champêtre, il le compare à un olivier. Alors, est-ce qu'on voit là ? Non, le premier, le vert. Alors, on va voir apparaître un olivier. Non, ça ne va pas. Bon, eh bien, on va le faire sans les rétroprojecteurs. Quoi ? Voilà, je vois Jean. Bon, alors, Israël est comparé à un olivier cultivé, c'est-à-dire que l'olivier et l'horticulteur, c'est Dieu. Ça, c'est une image proposée par l'apôtre Paul. Moi, je vais vous proposer une autre image sous forme de scénette. Il me faudrait un usage sympathique, je n'ai que l'embarras du choix. Frère, est-ce que vous accepteriez de venir m'aider, là, comme comparse? Voilà, venez là. Alors vous, frère, dans la scénette qu'on va avoir, vous allez représenter à vous tout seul tout le peuple d'Israël. Voilà, et c'est vrai parce que le peuple d'Israël trouve que c'est lourd, cette élection, c'est lourd. D'ailleurs, il a bien compris. Voilà. Et moi, dans la scénette, je vais jouer le rôle de l'Éternel, mais sans me prendre au sérieux. Alors, attendez, tenez-le. Alors moi, l'Éternel, à toi, peuple d'Israël, avec toi, je vais faire une alliance. Alors, comment je vais mettre ça en double ? C'est pas bien m'y prendre. Là. Voilà. Ouais. Voilà. Je fais avec ce peuple d'Israël une alliance, symbolisée par ce collier, couleur or, l'or c'est impérissable. L'alliance que Dieu fait avec Israël, c'est une alliance commune. Trouvez-moi un adjectif. Ça, on devrait le savoir par cœur. C'est une alliance éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, éternelle ? Qui dure toujours. C'est quand même d'une simplicité évangélique, ça. Qui dure toujours, ça veut dire que ça va durer tant que l'humanité durera. Alors Dieu, c'est dans Genèse au chapitre 15, Dieu fait avec Abraham et puis ensuite avec ses descendants, Isaac, Jacob et les enfants de leurs enfants, une alliance qui est pour toujours. Donc à quel moment Dieu va-t-il casser cette alliance ? Jamais, parce qu'elle est éternelle. Je semble donner des coups de marteau sur un clou, mais je pense que c'est souvent nécessaire. Alors, voilà, frère, dans la scénette, peuple d'Israël. Voilà. Alors, ça fait un peu New Age, ça, mais bon. Ça fait un peu spiritualo-gélatineux, ce truc-là. Mais enfin, bon, comprenez l'image, n'est-ce pas ? Alors, on pourrait dire ceci. Prenez-moi le poignet. Voilà, moi, je suis l'Éternel. Voyez, je tiens cette alliance. Lui me tient. Mais c'est moi qui ai décidé de l'alliance. C'est pas lui. C'est pas Israël qui a décidé de l'alliance. C'est Dieu. Alors, lâchez-moi d'un doigt. Bon, il se peut que, par certains côtés, vous soyez un peu faillible, ou deux doigts, ou trois doigts, ou le cinq doigts. Même si Israël n'est pas complètement fidèle à l'alliance, Dieu reste fidèle. Parce que Dieu n'est pas un Dieu menteur, Dieu est un Dieu qui tient ce qu'il dit. Il est ferme dans ses décisions. Est-ce que vous le croyez? Mais j'espère que oui, parce que quand vous lisez dans votre Bible, le salut est donné par grâce, par le moyen de la foi. Si vous doutez que Dieu peut rompre ses alliances, vous allez douter de votre salut. Mais si vous savez que l'alliance que Dieu a faite avec Israël est une alliance ferme, vous pouvez croire dans toutes les paroles de Dieu. Et ça vous donnera une stabilité. Voilà. Alors, à toi, peuple d'Israël, maintenant, je vais faire des promesses. Je te fais des promesses dans le cadre de cette alliance. De ces promesses, je relève trois points. D'abord, tu vas être assuré d'une pérennité, c'est-à-dire que tu vas continuer tout au long des siècles. Voilà, tu vas te créer de génération en génération, tes enfants auront des enfants, qui ont leur tour auront des enfants, et c'est Jérémie chapitre 31, verset 31, qui nous dit ceci, à peu près comme ça, « Tant que dans le ciel durera la ronde de la lune, du soleil et des étoiles, ce peuple juif, malgré tout et tout et tout et tout, vous voyez tout ce que j'ai mis dans le tout, ce peuple juif continuera d'exister. » Amen. Amen. Bon, deuxième promesse, je te promets un espace géographique donné, une terre promise. Savez-vous où elle est, la terre donnée par Dieu au peuple juif? Savez-vous où elle est? Alors, je le dis pour les plus jeunes. Vous demanderez à vos enseignants de vous montrer et vous êtes grand, vous prenez une carte du monde, vous regardez où est la Méditerranée et vous allez à l'est de la Méditerranée sur les cartes, et c'est à l'extrême droite, et là se trouve le pays d'Israël. C'est la terre donnée par Dieu. Une parenthèse aussi. Une parenthèse, je me suis rendu compte une fois, je ne sais plus dans quelle église c'était, que certaines personnes ne faisaient pas la relation entre ce peuple juif, ce peuple d'Israël dont on parle dans la Bible, et ce peuple juif qui existe encore aujourd'hui. Ça paraît curieux, mais c'était comme ça. Alors, le peuple juif qui existe aujourd'hui, ce sont bien les descendants du peuple juif dont parle la Bible. Bon, pour certains, c'est évident, mais des fois, il faut... Alors, donc tu as une terre promise, un espace géographique, et ce qui est promis est promis. Et puis alors, si tu restes fidèle à l'alliance, à suivre les commandements que je te prescris, eh bien, je te promets que tes troupeaux seront féconds, tes récoltes seront abondantes, tes greniers seront garnis, c'est-à-dire tu vas avoir de quoi vivre dignement. Mais vraiment, tu as quoi vivre bien comme il faut. Est-ce que vous voyez que ces promesses, de génération en génération, un espace géographique donné et une vie, je veux dire, assez abondante, quoi, digne d'être vécue, ce sont des promesses qui touchent à des réalités terrestres, c'est-à-dire très tangibles. Elles sont spirituelles. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les fait, ces promesses. Mais elles portent sur des réalités très tangible. Alors, elle va être symbolisée par ce chapeau. Voilà, alors là, le truc est complet. Heureusement qu'il n'y a pas de photographe dans la salle. Voilà. Voilà, bon. Voilà. Donc, ce peuple juif, avec une alliance éternelle et des promesses qui tiennent fermes. Alors, à un moment donné, ce peuple juif, tout au long de son histoire... Vous connaissez l'histoire du peuple juif, hein? Bon, à un moment donné, eh bien, par certains aspects, il ne répond pas tout à fait à ce que Dieu attend de lui. Alors, il y a des pans entiers du peuple qui, Paul dit, ils sont comme une branche de l'olivier mise à l'écart. Tu peux Non, on n'y voit rien du tout sur ce... Il fait trop clair, eh bien, on viendra une autre fois. Alors, bon, mais puisqu'il est là... Voilà, l'olivier cultivé d'Israël. Regardez-le, là c'est le frère. Paul dirait c'est l'olivier cultivé d'Israël, mais il se trouve que certaines, il y a des parties du peuple qui ne répondent pas à la vocation. Alors, allons chercher un couteau, par exemple, on coupe ce bras. Voilà. Paul nous dit, tous ceux qui sont d'Israël, tous ceux qui sont fils d'Abraham ne sont pas forcément Israël. Il veut dire qu'il y en a certains dans le peuple qui ne répondent pas à la vocation. Mais j'aurais beau lui couper un bras, lui couper une jambe, lui couper une main, il y a toujours une partie de lui qui va rester là. Il y a toujours ce que la Bible appelle un reste. Toujours une partie de ce peuple d'Israël qui est porteuse du projet de Dieu. Alors, on va arriver vers la fin. J'avais dit au début que Dieu était un Dieu de communion. Et que la communion ne pouvait pas se faire dans le singulier absolu. Il fallait un pluriel. Alors voilà qu'en Israël, à un moment donné, au sein du peuple d'Israël, la parole de Dieu devient chair. Et voilà qu'apparaît celui qui est à la fois vrai homme et vrai Dieu, celui qui va mener une vie d'obéissance au Père, une obéissance absolue, jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Et quel est ce personnage qui, à un moment donné, pour nous, ça fait 2000 ans, se lève en Israël? Comment s'appelle-t-il? Jésus. C'est vous qui avez dit Jésus. Alors, oui, entre autres. Alors, je vais vous poser une devinette. Dans les rues de Nazareth, le fils du charpentier, il a l'âge de ces jeunes, il marche dans la rue, arrive un copain par derrière qui lui crie « Hey, Jésus !» Que fait-il? Eh bien non, il ne se retourne pas parce qu'en fait, il n'a jamais entendu dans ses oreilles le mot Jésus. Yeshua. Alors, je dis ça parce que Yeshua, c'est un mot hébreu qui veut dire rédemption, relèvement, etc. Voilà. Jésus, son vrai nom, c'est Yeshua. Alors, je ne veux pas chicaner parce qu'on l'appelle Jésus. Ça, c'est des transcriptions en français. Je ne dis pas ça pour faire le snob érudit de hébraïsant que je ne suis pas. C'est juste pour placer les choses dans leur contexte. C'est pour bien rappeler que Jésus est né au sein du peuple d'Israël et que sa maman, Myriam, selon les directives de Dieu lui-même, l'a appelé Yeshua. Alors des fois je dirais Yeshua, des fois je dirais Jésus. Alors Jésus, de par sa personne, de par son œuvre, va amener une dimension à son top de réalité qui était déjà là en germe. Tiens, est-ce que tu peux me tendre tenir le chapeau comme ça? Voilà. Et que va faire Jésus? En quelque sorte, des promesses à caractère terrestre faites à Israël, Jésus va faire surgir une dimension céleste que ces promesses contenaient comme un germe. Et que symbolise cet oiseau? Oui, le Saint-Esprit, mais des réalités, on va dire, d'ordre céleste, c'est-à-dire qui touchent à l'éternité. Un peuple constitué de génération en génération, mais aussi un peuple basé sur la foi dans l'œuvre accomplie par Yeshua à la croix, l'œuvre de salut. On dit une terre promise, un espace géographique. Avec Yeshua, il y a aussi cette dimension de demeurer en lui. Paul nous dit demeurer en Christ. Vous l'avez entendu ça? Être en Christ. Au fait d'avoir des récoltes abondantes, des troupeaux fécondes, de pouvoir vivre dignement, voici qu'avec Yeshua, il y a aussi tout l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit. Le pardon des péchés, la justification, la sanctification, l'adoption par le Père, les charismes, les dons du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, la douceur, etc. Voilà ce que amène Jésus. Donc, est-ce que vous voyez dans le geste que je viens de faire qu'il y a un élargissement des promesses? Israël est toujours dépositaire des promesses à caractère terrestre. La terre est toujours promise. Mais le voilà maintenant considérablement enrichi par toutes ces promesses à caractère céleste, le pardon des péchés, la réconciliation, etc. Est-ce que vous voyez ? Donc il faut comprendre qu'Israël est toujours porteur de ces deux types de promesses. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu de communion et qu'il y a une communion entre les réalités visibles et les réalités non visibles. Il y a toujours cette communion. Mais je disais que Dieu est un Dieu de communion et que ça ne peut pas se jouer au singulier. Alors que se passe-t-il ? Au début, l'évangile est proclamé au sein du peuple juif. C'est la Pentecôte. Il est proclamé au sein du peuple juif. Une partie du peuple juif accepte, une partie n'accepte pas, elle refuse. Mais la partie qui accepte, les premiers juifs croyant en Yeshua, savez-vous comment on les appelle dans nos Bibles ? Les premiers juifs qui se sont tournés vers Jésus, qui ont accepté le message de Jésus, sa rédemption, savez-vous comment on les appelle ? Cette communauté humaine-là. Pourtant, c'est un mot que vous prononcez à longueur de temps. Oui. Il s'appelle l'Église. Ah, je vois des visages un peu surpris. Si on prend Actes chapitre 2, vous connaissez ces passages, les premiers disciples de Yeshua, de Jésus, se rassemblaient dans un même lieu et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, les prières, à la fraction du pain, etc. Et il est dit... Et le Seigneur rajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et voilà, et le frère qui est ici, l'olivier cultivé d'Israël, s'appelle aussi l'Église. D'accord ? Mais Dieu, ce que Dieu veut, c'est que son Église soit une fratrie. Vous savez ce que c'est une fratrie ? Des frères. Pour l'instant, dans la fratrie, il y a un enfant. Celui-là, il est fils unique. Mais Dieu ne veut pas faire une communion avec un fils unique, parce qu'un fils unique, ça ne fait pas une fratrie. Alors, que se passe-t-il ? L'évangile est annoncé en direction des non-juifs, la plupart d'entre vous. Des gens qui étaient sans Dieu, sans alliance, nous dit Paul, en dehors des alliances, sans promesses, sans Christ, sans Dieu dans le monde, étrangers à tout cela. L'évangile est annoncé en direction de ces non-juifs. Certains refusent le message, certains l'acceptent. Je pense que le frère Couder accepte le message. Alors, viens ici, tu vas représenter à toi tout seul, je te mets là, tu vas représenter à toi tout seul la réalité dans l'humanité de tous ceux qui sont non-juifs, mais qui ont accepté le message de Jésus. Tu acceptes personnellement Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur.
Oui.
Amen, alléluia. Bon, voilà, rassuré. Voilà. Alors, toi, non-juif, jusque-là, tu étais sans alliance. Mais ne va pas t'imaginer que Dieu fait avec toi une alliance nouvelle. Pas du tout. Tu vois cette alliance que Dieu a faite avec Israël. Pendant des siècles, depuis Moïse jusqu'à Jésus, cette alliance, elle était signée par le sang d'animaux offerts en sacrifice. En bref. Depuis Jésus, la même alliance, elle est signée d'une façon ferme et définitive par le sang de Jésus à la croix. Mais c'est toujours la même alliance. Alors, je vais dire quelque chose à ceux parmi nous qui n'ont aucune racine familiale juive. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Je vais le faire exprès, mais j'apporterai les nuances. Vous, non-juifs, avec vous, non-juifs, Dieu n'a jamais fait d'alliance. Sauf du temps de Noé. La seule alliance que Dieu a faite, c'est avec la maison de Juda, la maison d'Israël. Ça, c'est Hébreux chapitre 8, verset 8. Voilà, et Jérémie 31. L'alliance n'a été faite uniquement qu'avec le peuple juif. Et pas avec vous, non-juifs. Alors là, dites, mais alors qu'est-ce que c'est ? Le frère, il nous fiche dehors ? Non, pas du tout. Mais maintenant... En Jésus, Jésus vous accueille à bras ouverts, les bras ouverts de Jésus à la croix, et vous invite à entrer dans l'alliance nouvelle formule faite avec Israël. Et c'est ça, c'est le mystère, dans Éphésiens chapitre 3, où Paul nous dit le mystère, c'est que les païens maintenant sont invités à rentrer dans l'alliance, être co-héritiers. pas héritier à la place, mais co-héritier. Alors, on va élargir le truc, là. Attends, comment on va faire ça? Voilà. Hop, allez. Voilà. Voilà. Et voilà cette alliance, maintenant. Toi, non-juif, tu rentres dans une alliance avec Israël. Alors, Israël, qui est toujours porteur de ses promesses à caractère terrestre, mais les voilà tous les deux, et ce n'est pas complet. Parce que maintenant, les promesses à caractère céleste, elles sont pour l'un et pour l'autre. Est-ce que vous comprenez? Dans cette alliance, juifs et non-juifs bénéficient du même amour du Père, du même sang rédempteur, de la même assistance de l'Esprit-Saint. Et c'est pourquoi Paul nous dit, qu'est-ce qu'il dit Paul? En Jésus, en Christ, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Vous l'avez lu ça? Je pose une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans l'Église et dans la vie, les hommes restent des hommes et les femmes restent des femmes? Attendez, vous m'inquiétez un peu, parce que je vous ai posé une question, mais alors la mollesse de votre réponse m'inquiète. Parce que vous savez, il y a une époque où... Alors, je repose la question et répondez-moi oui ou non, mais répondez-moi quand même. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans l'Église et puis dans la vie, les hommes sont appelés à s'épanouir pleinement en tant qu'hommes et les femmes en tant que femmes? Ah bon, là vous me rassurez. Donc si les hommes sont les hommes et les femmes et les femmes, ça veut dire que le juif reste juif et le non-juif reste non-juif. Et voilà la communion entre les deux voulue par Dieu. Parce que Dieu veut reconstituer une humanité de communion. Alors là, dans cette communion, on va voir des hommes et des femmes de toute race, de toute tribu, de toute couleur. Je regarde mon heure. Pourquoi c'est important de réaliser ça dans l'Église? C'est très important parce que c'est le plan de Dieu. Et que si nous voulons avancer d'un pied ferme sur les chemins qui sont devant nous, il nous faut adhérer au plan de Dieu. Vous savez que d'ici que le Seigneur revienne en gloire, nous attendons ce moment, mais nous allons vivre quand même des moments difficiles. Pas se leurrer. Hein? Bon. Alors, c'est comme la voiture sur la route dans les virages. Si elle n'adhère pas des quatre pneus sur la route, elle va déraper. Nous devons adhérer au plan de Dieu. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour son peuple. C'est dans Éphésiens chapitre 2, Dieu a voulu de nous, il parle en tant que juif, de nous, juifs, et de vous, non-juifs, faire un seul homme nouveau. C'est comme le couple. Mon épouse et moi, on fait un couple, on est une seule chair, mais n'empêche que toi, tu es toi, moi, je suis moi. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour son Église. Pourquoi est-ce aussi important pour nous? Parce que je suis persuadé qu'il y en a beaucoup parmi nous qui sont dans un cas de figure comme ça. Par exemple, le papa est tchèque, la maman est française. Si c'est mon cas, par exemple, suis-je tchèque ou suis-je français? Si je ne suis pas dans cette idée de communion, le français en moi va un peu évincer le tchèque. Ou alors ça va être le contraire. Et il va y avoir une dichotomie entre moi, entre les racines du côté de ma mère et les racines du côté de mon père. C'est classique ça. Et tandis que si nous réalisons cette communion voulue par le Seigneur, sur cette base-là, après nous tissons toutes les communions voulues. Eh bien, sur cette communion-là d'un Dieu qui veut son Église faite de juifs et de non-juifs, eh bien, en moi, le Tchèque va arrêter de faire la guerre aux Français et vice-versa. Je serai pleinement Tchèque par mon père et pleinement Français par ma mère et les deux vivront en paix et nous serons des agents de réconciliation. Et puis, c'est important dans nos assemblées. Je pense surtout dans les grandes villes où maintenant les églises sont de plus en plus cosmopolites. Voilà. Alors, nous devons baser sur ce principe de communion. Donc, ça pose une question, je vais m'arrêter là, c'est que dans l'Église, où voit-on la réalité juive aujourd'hui? Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la voyez? Voilà, vous avez bien répondu, on ne la voit pas. Si c'était évident, vous aurez répondu oui. Si je demandais dans l'Église, est-ce que vous voyez la dimension de la louange? Oui ou non? Est-ce que vous voyez la louange dans l'Église? Bon, vous répondrez oui, il n'y a pas d'hésitation. Si je vous dis où est la réalité juive dans l'Église, vous ne me répondez rien du tout, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que cette réalité-là, elle a perdu de sa visibilité pendant des siècles. Mais ça, le Seigneur est en train de la redonner, et ça, nous verrons ça une prochaine fois pour de nouvelles aventures avec vous. Voilà, amen. Bon, merci Seigneur. Bon. Seigneur, je te prie que ce sympathique tableau, là, cette scénette un peu amusante, un peu enfantine, ne soit pas une réalité infantile, Seigneur, mais qu'elle nous rejoigne dans nos cœurs au plus profond. Seigneur, je te prie que ton esprit de sainteté vraiment creuse en nous comme un creux, une cavité, je ne sais pas quoi, creuse au niveau de notre cœur pour que ça descende ensuite dans les tripes, que ça monte dans le cerveau, mais cette réalité que se case dans ce creux, cette réalité de ton Église faite à la base dans son génome de juifs et de non-juifs. Tel est ton projet pour l'humanité, Seigneur, et nous te bénissons parce que tes desseins, malgré toutes les péripéties déplorables de l'histoire, tes desseins se réaliseront. Et merci, Seigneur, de faire de cette terre d'Alsace, et particulièrement de cette région de Guebwiller, de ce lieu ici, de l'église Josué, du collège Daniel, et puis des frères et des sœurs qui sont là aussi, Seigneur, tu veux faire un point d'ancrage de cette réalité pour qu'elle reprenne vie, Seigneur. C'est une plante fragile que tu remets en pot. Et Seigneur, que ton Esprit Saint, avec ta grâce et ta délicatesse, l'arrose et la fasse fructifier. Pour ta gloire, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, merci.